Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Bienvenue sur La Route Inconnue, votre magazine dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie, se lit aujourd'hui. Je rappelle que le partenaire de La Route Inconnue n'est autre que la revue trimestrielle de poésie Décharge, qui entre autres met à notre disposition ses talentueux chroniqueurs, Claude Verset, Louis Dubot et Jacques Mau, alias Jacques Morin, directeur de publication de la revue Décharge. Alors tout à l'heure, vous retrouverez d'ailleurs le coup de cœur mensuel de Claude Verset, suivi des chroniques de nos amis poètes Cécile Guivard chez Patrick Jockel. En 1944, le compositeur Olivier Messiaen a composé 20 pièces pour piano seul qu'il a intitulées « 20 regards sur l'enfant Jésus ». À l'occasion d'un concert au cours duquel la pianiste Marielle Lemonnier a repris quelques-unes de ses pièces, le poète Roland Nados a composé 20 poèmes inspirés par les titres donnés à son œuvre par Messiaen lui-même. Ces 20 poèmes ont fait depuis l'objet d'une publication aux éditions Olivetan. Regard sur l'enfant Jésus est un très beau texte qui inspirera à ses lecteurs de profondes méditations sur le mystère de la nativité du Christ, bien sûr, mais aussi sur toute nativité, n'est-ce pas, Roland Nados?
Ah oui, c'est à la fois, c'est bien sûr d'abord à partir des 20 regards de Messiaen sur la naissance de Jésus et d'une certaine façon la prémonition de sa fin et de la suite, mais c'est aussi, bien sûr, dans quelques-uns des textes, un regard sur toute nativité, toute naissance. Ouais. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, mon nom, Nado, vient du latin natalis, qui veut dire nativité.
Vous étiez prédestiné pour écrire ce livre.
Hein. Je ne sais pas si j'étais prédestiné, mais en tout cas, c'est un hasard. Et comme vous le savez, le hasard est le nom de Dieu lorsqu'il voyage incognito.
Ah, c'est très beau. Comment ce projet a-t-il vu le jour?
Alors, c'est le directeur d'un théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'appelle La Ferme de Bélébat, qui organise depuis plusieurs années un cycle dans sa programmation théâtrale qui s'appelle Sacré Musique. Et dans ce cadre-là, il a demandé à Marielle Lemonnier, qui est une pianiste, une jeune pianiste dans une famille de grands musiciens, elle-même maintenant qui entame une carrière internationale, de jouer 6 des 20 regards de l'enfant Jésus. Et il m'a demandé... Il s'appelle Johan Lavabre, et il m'a demandé d'écrire 6 textes, 6 poèmes, pour introduire les œuvres jouées par Marielle Lemonnier. Et donc j'ai travaillé pour écrire les 6 regards qu'elle avait choisis, et puis finalement je me suis laissé emporter, parce que je connais Messiaen depuis que j'étais en classe de philo, donc oui, ça remonte très très loin. Et je me suis laissé emporter par la redécouverte de cette œuvre musicale tout à fait étonnante. Et finalement, j'en ai écrit 20, et même 22, parce que certains regards m'ont inspiré deux fois.
Alors, ces regards sur l'enfant Jésus sont multiples. Je cite Messiaen, hein. Depuis le regard indicible de Dieu le Père jusqu'au regard multiple de l'Église d'amour, en passant par le regard inouï de l'Esprit de joie, par le regard si tendre de la Vierge, puis des anges, des mages, des créatures immatérielles ou symboliques, et la Messiaen fait référence au temps, aux hauteurs, au silence, à l'étoile et à la croix. Roland Nadeau, vous avez, si j'ose dire, relevé le défi de Messiaen en donnant la parole à tous ces regards, l'un après l'autre.
Alors c'est un peu ça. Il faut dire que Messiaen, d'abord, il faudrait rappeler que Messiaen est lui-même fils de poète, mais il a l'habitude, il avait l'habitude de lui-même assez commenter ses œuvres de façon générale, d'en dire quelque chose. Et comme vous venez de le rappeler, sur les 20 regards sur l'enfant Jésus, il a choisi des titres extrêmement poétiques. Et d'une certaine façon, pour plusieurs d'entre eux, très mystérieux. Et il a souvent mis un petit commentaire pour expliciter sa musique ou plutôt l'ambiance de sa musique, parce que il n'explicite pas directement la composition, mais l'ambiance générale et autour de quoi ça rime. Par exemple, le regard des auteurs, c'est un peu ce que Saint Paul a appelé les souverainetés, etc. Vous voyez. Et donc, je suis parti hein, d'abord de l'écoute, de la réécoute de l'œuvre pianistique, et puis des commentaires même d'Olivier Messiaen. Puis après, j'ai travaillé quoi hein, sur ce que cela m'inspirait, à la fois sur le plan poétique, sur le plan de la foi, sur le plan théologique, parce que Messiaen lui-même était non seulement un grand musicien, un grand ornithologue, mais aussi un vrai théologien. Ouais. Et donc c'est tout ça est extrêmement dense.
Ouais. Les oiseaux sont présents dans cette œuvre pianistique.
Ah oui. D'ailleurs, j'ai écrit un poème qui pose la question. Mais quel était le premier oiseau qui a chanté au-dessus de la crèche? Et c'est un clin d'œil à Messiaen, qui a écrit d'ailleurs un catalogue des oiseaux et qui est allé un peu partout dans le monde d'ailleurs écouter les oiseaux, transcrire leurs chants, et on retrouve dans toutes ses œuvres. Je connais pas l'intégralité, mais j'en connais au moins 80-90%. Et dans toutes ses œuvres, il y a des réminiscences d'oiseaux. Alors y compris dans ses 20 regards sur l'enfant Jésus.
Oui. Alors vous vous êtes évidemment donc laissé inspirer par lui, mais je suppose que vous avez aussi puisé dans votre propre travail théologique intime, si j'ose dire, non, votre propre appréhension de la foi.
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il y a eu une adéquation entre l'œuvre de Messiaen, ses commentaires et ma propre vie intérieure et mon cheminement dans parfois chaotique d'ailleurs dans la foi. Et tout ça sous le synthétisé, ou plutôt dans une espèce de syncrétisme poétique.
Ouais. Oui, tout à fait.
Ouais. J'ai mon regard sur les regards de Messiaen.
Ouais. Et puis, du point de vue de la langue, il y a quelque chose parfois de classique, puis c'est cassé par quelque chose de très moderne. Ce sont aussi des écritures en rupture.
Oui. Ouais. Oui, je travaille depuis longtemps un peu de cette façon. Je suis quelqu'un qui pense que la poésie est d'abord, comme tous les arts d'ailleurs, de façon puissante, d'abord émotive.
Oui.
S'il n'y a pas d'émotion, ça peut être un très bel exercice décoratif ou cérébral. Mais ça c'est de la tambouille.
Oui.
C'est des petits trucs d'artisans. Que tout écrivain, tout poète ou tout musicien utilise.
Ouais,
mais il y a d'abord, à la base, une émotion, et cette émotion, elle a plusieurs dimensions. Ça peut être une dimension intellectuelle, ça peut être une dimension spirituelle, ça peut être une dimension esthétique, ça peut être tout ça à la fois. Et dans l'écriture même, elle doit donc évidemment être abordable, mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de ce qui s'est passé. Ça serait complètement stupide, de mon point de vue en tout cas, de recommencer ce qui a déjà été fait.
Oui.
C'est comme si, en peinture, quelqu'un voulait refaire Fragonard. Alors qu'on le fasse pour des études, bien entendu. Mais, ou en musique, quelqu'un qui voudrait refaire Mozart. Ça peut être amusant pour une musique de film, ou pour un pastiche, ou même pour apprendre. Mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire, de la poésie.
Oui.
Je ne parle pas des progrès, ça n'a aucun sens. Le Ronsard est aussi actuel qu'Apollinaire, qu'Aragon ou d'autres, ou que Christophe Julien, tiens, par exemple, puisque vous venez aussi publier un recueil. Et donc, tout en restant d'abord, pas trop difficile, on doit aussi faire un travail sur la langue, parce que d'abord la poésie, c'est d'abord de la langue.
Bien sûr, c'est le matériau.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Je ne sais plus, c'est pas Messiaen qui disait ça, mais Avec quoi travaillez-vous ? Il disait avec des notes de musique. Ouais. Et le poète travaille avec des syllabes, avec des mots, avec des sonorités.
Ouais. Alors, avec Roland, vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable. Il y a une soixantaine de livres. Moi, je voulais savoir si votre retour à la foi chrétienne, je crois que c'était aux alentours de 2006, a donné un nouveau tournant à cette œuvre.
Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu retour à la foi, il y a eu retour à la maison-église.
D'accord.
La foi a été mise un petit peu entre parenthèses quelque temps, mais c'était surtout, j'avais des relations un peu difficiles, non pas avec les prêtres, dont beaucoup ont été et sont mes amis, mais avec l'institution elle-même, que je trouvais pas tout à fait en adéquation, loin de là, avec la Bible que je lisais régulièrement tous les jours, au moins matin et soir, et puis les livres de théologie que j'ai pu lire, et ou bien les fréquentations que j'ai pu avoir avec certains prieurs, certains abbés, etc. Donc la foi a été, mise en pas entre parenthèses, mais en filigrane. Mmh. Et puis, bon, lorsque ma vie et les rencontres que j'ai pu faire m'ont amené à revenir comme le fils prodigue à la maison, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a changé assez fortement mon écriture, car je n'ai plus du tout dissimulé. J'écrivais de façon allusive, mais j'avais déjà écrit, par exemple, « Je ne tutoie que Dieu et ma femme » depuis très très longtemps. Mais là, cette fois, ma foi est présente tout à fait... Dans mes textes, et par exemple, je suis allé hier dans une grande librairie de Saint-Quentin-en-Yvelines faire une lecture de quelques-uns de ses regards sur l'enfant Jésus, et chose que je n'aurais certainement pas faite avant mon retour à la maison.
Ouais. Vous avez cité Saint-Quentin-en-Yvelines. Je précise à nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas que vous avez... Pratiquement, vous êtes aussi presque l'auteur de cette ville. Vous avez construit une partie de Saint-Quentin en Yvelines, puisque vous avez été le maire durant trois mandats, je crois, successifs.
Alors, j'ai été un des bâtisseurs, parce qu'il y avait quand même des architectes, des urbanistes et d'autres élus. Mais c'est vrai que j'ai été... élu de Guyancourt, qui est une des composantes de Saint-Quentin, pendant 31 ans, et j'ai même présidé l'agglomération vice-présidé pendant plus d'une quinzaine d'années. Ouais. Et au moment où on créait l'université, où il y avait l'arrivée du technocentre Renault, le développement du grand réseau des médiathèques, le théâtre, scène nationale, etc., etc. Donc oui, c'est vrai, j'ai été très très impliqué dans la construction de cette ville nouvelle qu'on a bâtie en une génération.
Ouais. Je crois que vous avez dit quelque part que vous vouliez, vous avez toujours eu le souci de donner des mains à votre poésie.
Oui, tout à fait.
Ouais.
J'ai toujours voulu que mes mots, parce que je suis aussi romancier et puis conteur, et j'ai fait des pièces de théâtre également, mais j'ai toujours voulu que mes mots aient des mains. Je pense que l'homme est... On a trop séparé l'homme, ça c'est un petit peu le côté tristement cartésien, entre l'âme d'un côté, le corps de l'autre, et puis même la civilisation contemporaine a eu tendance à saucissonner l'individu entre... le professionnel, l'homme de la famille, l'homme de la pensée, l'homme éventuellement de la foi, etc., etc. Or, l'homme est un être global. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la poésie est pour moi extrêmement puissante, parce qu'elle allie toute cette globalité. Un poème, il y a dedans du sens, il y a de la musique, il y a... de la composition spatiale, c'est vraiment quelque chose qui unifie et qui correspond à la volonté humaine. Et donc, les mots et les mains, en dehors de la première lettre qui est commune, ils constituent ce qui fait l'homme.
Une dernière question. Vous êtes un poète chrétien ou un chrétien qui est aussi un poète ?
Alors, c'est une bonne question à laquelle je n'arrive pas à répondre. J'ai tendance, lorsque je prie, à dire « Seigneur, aidez-moi comme poète chrétien », et puis je me reprends et je dis « Non, je suis un chrétien qui est poète ». Et puis je me dis « Ben non, c'est une dialectique. J'ai les deux jambes et je marche sur les deux jambes. »
Roland Nadeau, un grand merci à vous. Je rappelle que votre livre « Regard sur l'enfant Jésus » publié aux éditions Olivetan est en vente ou à commander dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci Christophe Jubien et à bientôt.
Regard sur l'enfant Jésus de Roland Nadeau, d'après l'œuvre d'Olivier Messiaen. Regard du Père. Comme un père qui regarderait son enfant, avant même sa naissance, dans le scanner intérieur de l'amour. Car l'amour voit tout, seule la passion est aveugle, et si l'amour ferme les yeux, c'est par passion, pas par amour. Oui, comme un père scrutant sur l'écran les micro-battements du micro-cœur de son micro-fils ou fille, car maintenant la technique essaie d'imiter Dieu, elle court après lui avec ses bottes de 7 lieues, en vain. Comme un père auscultant son propre corps pour y chercher l'âme de son enfant et sa future destinée, car le futur commence toujours dans le passé de notre imagerie, je dis bien imagerie, ce stéthoscope en couleur dont rêvèrent tant d'artistes, comme un père qui se prendrait un instant seulement, pour Dieu le Père Tout-Puissant, parce que le désir attrapé par la queue. Ainsi l'écrivit Picasso, car le piège de la vie ne se résume pas au piège du vie. Comme cette preuve de Marie-Ange Hermé dans la seule vérité désirante de l'esprit, car si nous sommes debout, c'est pour marcher, égal avancer. Notre passé commence dès que nous sommes nés. Père, regarde-nous dans cette intimité de notre monde pluriel, comme tu as reconnu l'enfant, l'enfant Jésus. L'échange. Les anges n'ont pas d'ailes visibles, sinon ce seraient des statues, autrement dit, des sarcophages d'âmes. Qui peut penser un seul instant d'éternité que des pierres sculptées se soient penchées sur l'enfant Jésus ? Dans sa mangeoire de pierre vive, emmaillotée de bandelettes, comme il le sera dans sa mort, il écoute et respire le souffle des vivants. ce sont Marie et son Joseph, et les bergers et le bœuf blond et l'âne gris, mais c'est aussi le souffle de l'Esprit que des anges, ailes invisibles en éventail, rendent perceptible au corps menu, si menu, de l'enfant Jésus. Pourtant, cette première pierre, creusée en mangeoire à bestiaux, annonce la dernière, la pierre tombale du tombeau, qui sera roulée par des anges. Car chaque naissance, mes amis, est déjà une renaissance à nous-mêmes, chaque adoption, chaque reconnaissance, les mains du cœur sur le front de l'enfant. Ne cherchons pas plus loin les anges, vous en êtes même sans le savoir. Vous n'osez pas? Eh bien, osez la parole. Regarde la Vierge. Un enfant vous naît et vous renaissez à vous-même. Dans le lit de vos amours, il y avait déjà quelqu'un d'autre. Mais cet autre, c'était pourtant vous, dans l'orgueilleux et nécessaire désir de vous survivre, et dans l'humilité terrible de qui sait que l'humus est constitué de vie morte, de qui sait que donner naissance, c'est aussi promettre la mort. Qui a donné, qui a reçu, qui ose interroger le grand qui, dont la parole est vie, dans la petite gorge d'un enfant d'homme? Tous les parents sont des dieux pour leurs enfants, même terribles, car ce sont tous des rameaux de la même vigne, comme nous sommes tous fils et filles de Dieu, grâce à notre adoption par le Fils du Père. Mais l'enfance n'est pas un séjour divin, sauf en notre mémoire peut-être. Et même le Fils de Dieu, venu en chair humaine, a appris à apprendre que la naissance n'est qu'un terrestre prélude au chant de l'inaccessible lumière. Car oui, la lumière chante, on le sait bien désormais, grâce aux étoiles qu'écoutent les hommes. Regard du Fils sur le Fils. Mais quand, la toute et toute première fois, l'enfant Jésus se reconnut-il en un miroir? Double miroir des yeux de Marie, larme miroir des yeux de Joseph, pupilles étoilées des bergers, reflet d'or dans l'humble regard des rois mages. Ou bien le Fils de Dieu, quand il ouvrit vraiment ses yeux, regarda-t-il le Fils de l'homme qui était en lui? Quels regards d'amour se posèrent de l'un à l'autre, et du tout autre à l'enfant, du tout grand à ce tout petit? Dans la fourmilière des humains, chaque fourmi vit la vie de Dieu quand elle donne naissance à cet autre qui lui ressemble et n'est pas le même. À chaque fois, comme à Bethléem, des oiseaux silencieux dans la forêt humaine chantent plus fort que la mort, et l'enfant Jésus en nous les écoute. Et ces oiseaux échangent des regards. Moi qui ne vole pas, j'en suis sûr, j'ai croisé des anges à forme humaine. Par lui, tout a été fait. Tout enfant est Babel, Babel, Babil, Babel. Et dans son babillement, sa lallation, son lambdacisme, comme disent les savants, dans son babil, comme disent les mamans, qui ne savent pas forcément la tour de Babel, dans son gazouillis, comme le disent des pères qui pensent que leur enfant a forcément déjà des ailes, dans son enfance, tout enfant est d'abord enfant. Évidence, truisme, la palissade, tautologie, apodicticité, crieront même les cuistres. Mais ont-ils, avez-vous, regardé le planisphère des états et sa carte de l'enfance? L'enfant Jésus aujourd'hui a changé de mangeoire, technologie oblige, mais il est toujours le grand frère de ses petits qu'il aimait et qui souffre leur passion. Oui, tout enfant à sa naissance parle en puissance toutes les langues du monde, même les disparues et même celles qui vont naître, peut-être même celles de mondes encore inconnus. Oui, tout enfant, dès que naître, en sait que note, est en langage cette tour de Babel, où les humains se sont perdus d'orgueil les uns contre les autres. Mais l'enfant n'a pas encore choisi quelle langue il parlera ou ne choisira pas. Simplement il écoute, simplement il regarde. Dans sa mangeoire, l'enfant Jésus babille toutes les babelles de l'univers dont il annonce par sa venue l'unité finale. Dans son babil, il dit non seulement l'homme et l'insecte et la pie, peut-être même dit-il aussi la pierre vive et ses notes sur un piano, comme une cathédrale de sons, comme un retable sonore, partition et temple d'amour. Regarde la croix. Viens dans mes bras, dit Marie. Viens sur mes bras, dit la croix. Tu nais de moi, dit Marie. Tu renaîtras de moi, dit la croix. Bras en croix, l'enfant Jésus écoute sa mère. Bras en croix, Jésus se donne à l'humanité tout entière. Embrasse-moi, dit Marie. Embrase-moi, dit la croix. Mère, embrasse-moi, dit l'enfant Jésus. C'est ton cadavre que j'embrasserai, murmure Marie en son cœur. Mais ce sera toujours ton corps, mon enfant, fils de Dieu et fils de l'homme. Au pied de l'arbre de torture, j'embrasserai encore tes pieds, pour qu'ils me mènent au royaume où chacun est roi, où toute femme est reine, où tout enfant te ressemble. Regardez auteur. Quel fut le premier oiseau à chanter au-dessus de la crèche? Quelles ailes venues des hauteurs descendirent pour son hosanna? Les bergers prétendent qu'ils entendirent grisoler une alouette, mais d'autres, arguant de la nuit, affirment qu'un rossignol s'égosilla à proclamer « Hosanna, Hosanna !» Quand on interrogea les rois mages, ils évoquèrent un oiseau au plumage d'or, d'encens et de myrrhe. Personne n'osa interroger Marie, ni Joseph, ni même l'aubergiste de Bethléem. Le bœuf roux et l'âne gris aux grandes oreilles avaient tout entendu, pourtant personne ne leur demanda rien. Dans les temps qui suivirent, des milliers d'ailes furent suggérées. Merle, fauvette, pinson, chardonneret, serin, cygne et même bouscarle, tous sans doute descendirent des hauteurs sous forme d'ange, décida un docteur S. Paradis. Et j'ai cru cela longtemps, trop longtemps, que seuls de tels oiseaux pouvaient chanter l'enfant Jésus. Comme il en est chez les hommes, où souvent plumage vaut mieux que ramage. Pourtant personne n'interrogea Jésus en personne. Et cependant il l'avait dit, son oiseau-prince, son prince-oiseau, c'est l'homme avec ses ailes de moineau. Voilà, c'était quelques extraits de Regards sur l'enfant Jésus de Roland Nados sur la musique de Messiaen. C'est publié aux éditions Olivetan. Vous pouvez évidemment le commander chez votre libraire. Thank you. Après cet intermède musical signé Mike Oldfield, extrait de l'album Ergot's Rage, je vous propose de rejoindre Claude Verset, notre ami de la revue Décharge, et le poète que l'on sait, Claude Verset, qui nous revient avec un coup de cœur, et même, vous allez voir, un sacré coup de cœur.
Bonjour à tous, bonjour Christophe. Saisi, oui, dès le premier poème du livre « Démembrement » d'Emmanuel Merle, dont je vous parlerai aujourd'hui, j'ai été saisi comme rarement, si bien qu'un temps, il me parut inutile de continuer la lecture, qu'il suffirait que je m'en tienne à ce seul poème, qu'il suffirait que je le cite, pour engager l'auditeur à se saisir du livre paru aux éditions Voix d'encre. Mais sans doute ce parti pris est-il un peu trop radical. Mais je vais cependant commencer par vous lire en intégralité ce poème d'ouverture de Démembrement d'Emmanuel Merle. Il n'y a plus rien que des corps inhabités, des équations d'êtres ensevelis. Je me retourne. Tous ont du sable jusqu'aux épaules, peinent à se tourner la tête, vocifèrent pourtant. Tout cri est signal d'alarme. Il n'y a plus rien que des pluies de ravines sur les visages dépareillés. Je vais encore et je te cherche. La foule marche sur les noms, ravage l'écoute et la compassion. Tout est à l'Occident. Tout tombe derrière l'horizon comme derrière un vieux meuble. Des morts enfermés dans des sacs sont sans rapport avec l'être qu'ils étaient encore le matin même. Il n'y a plus de figure. Je vais encore et je te cherche. Poème panique, d'effroi, puissant et imagé comme la plupart le seront par la suite, et insituable. Sommes-nous parmi les damnés, subissant leur peine éternelle dans quelque enfer? Ou est-ce une vision de condamné avant une exécution particulièrement sordide? Une métaphore du monde actuel, d'une société ayant perdu les valeurs qui assuraient sa cohérence? On songe aussi, avec inquiétude, à un drame plus intime, au poète annonçant à mots couverts une maladie grave qui l'aurait frappé, exprimant la crainte d'en être détruit. Au final, mieux vaut accepter pour ces textes tous les sens possibles, d'une maladie qui désagrège la conscience individuelle aussi bien que le corps social que des projets communs ne rassemblent plus depuis longtemps. Le fleuve est noir qui descend les temps modernes. Nous nous maintenons à la surface en battant des bras, cherchant de nos yeux à moitié aveugles les bras des autres. La phrase d'Emmanuel Merle nous emporte dans une suite d'enjambements qui de vers en vers nous entraîne à la poursuite d'un but qui ne sera jamais atteint. Une écriture qui évoque celle des rois mages d'André Fresneau et leur quête épique, toujours vaine. Au bout du compte, ne faut-il pas se faire une raison? L'existence est toujours en deçà de ce qu'elle pourrait être, écrit le poète. Si bien que tout va rester sur le point d'être accompli. Rien ne sera vraiment décider, et c'est vivre. Je vous ai lu aujourd'hui des extraits de Démembrement d'Emmanuel Merle. J'ajoute pour être complet que le livre est ponctué par les peintures de Philippe Agostini, dont il m'est difficile de donner idée à la radio. Il ne vous reste plus, cher auditeur, chère auditrice, qu'à vous procurer ce livre pour juger également de sa qualité plastique autant que de sa qualité d'écriture. Je vous rappelle que Démembrement d'Emmanuel Merle a été publié chez Voix d'encre, 19 euros chez votre libraire, ou en écrivant à l'éditeur, boîte postale 83 26202 Montélimar, CEDEX. Bonne lecture et à bientôt.
Les tweets du pinson et autres aléatoires, c'est le titre du dernier recueil de Jean-Claude Touzeil que vous entendez régulièrement sur les ondes de Radio Grand Ciel sur la route inconnue dans sa chronique mensuelle. Eh bien, Jean-Claude Touzeil vient de faire paraître ce dernier recueil aux éditions Gros Texte et j'ai décidé de vous en lire quelques extraits qui m'ont beaucoup plu. Tiens, ce poème spécial. Dis, papy, tu la vois bien, la troisième salade là, de la deuxième rangée en entrant à gauche du jardin? Tu sais, elle est très spéciale. C'est moi qui l'ai plantée. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Arrose-la tous les soirs et protège-la des limaces. Dis, papy, quand tu la mangeras, la troisième salade de la deuxième rangée en entrant à gauche du jardin, penseras-tu à penser à moi? Musicienne. La poule connaît la musique en studio. Elle joue du banjo, du tuba, du saxo, mais elle ne met pas tous ses œufs dans le même piano. Elle joue aussi du violon, du synthé, des cymbales et de l'hélicon. En revanche, même en plein air, elle déteste la batterie. Chez Magritte. Dans la chambre de Magritte, sur le papier peint, il pleut des poules et des œufs. Un œuf, une poule, un œuf. Un œuf, une poule, un œuf. Un œuf, une poule, un œuf. On ne sait pas par quoi il a bien pu commencer. Tablette. À l'ombre du figuier, je t'offre une page blanche pour dessiner tes rêves, un bon pour des jours meilleurs, en échange de ta collection de Pokémon. Un soupçon de folie à partager, 3 grammes de poésie contre tes vignettes Panini, un nuage vagabond à la place de ta fameuse déesse, et du vrai chocolat qui te fait des moustaches en échange de ta tablette. Pratique. Pendant la saison des pluies, l'escargot en profite pour faire la vaisselle et laver son linge. On l'entend parfois qui chante à tue-tête en prenant sa douche. Ensuite, il attend patiemment que la saison sèche. Tagada ! En Leptonie, au Septentrion, pousse le lepton savamment. Au Quarkistan, loin de l'Orient, vivent les quarks aux atomes crochus particulièrement. Au marché de Marrakech, saveur du Sud, s'expose l'exotique tête du magasin épicément. Dans la mixture de l'opéra bouffe, s'agite un agent de texture sacrément. Au Colorado, dans un western restauré, se dépose un colorant artificiellement. Tous les chemins mènent à l'arôme. Ils ont mis tout ça dans ta glace à la fraise, naturellement. Mélange. Il ne faut pas confondre un avocat qui mange un financier avec un financier qui mange un avocat. Une personne qui regarde les nouvelles et des nouvelles qui ne regardent personne. Et puis ce dernier, intitulé 6 pouces. Aux environs de l'an 1000, sur le chantier de l'église du village, Rémi Pinson, le petit apprenti, s'apprête à planter un clou de 6 pouces dans la charpente. Il ignore que dans 1000 ans, on le verra encore. En sifflotant, il enfonce le clou. À vrai dire, il s'en fout complètement. Voilà, c'est de Jean-Claude Touzeil, les tweets du Pinson et autres aléatoires, une lecture vraiment jubilatoire publiée aux éditions Gros Texte avec des dessins d'Yves Barré. C'est un livre qui se regarde également. Je vous propose, eh bien, à présent de rejoindre Cécile Guivarche, notre amie poète et animatrice du site consacré à la poésie Terre à Ciel.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 coups de cœur. Donc, le premier, c'est « À jour » d'Hélène Lanscott, qui est paru aux éditions Isabelle Sauvage. Alors, en fait, il y a un sous-titre qui s'appelle « 43 ouvertures pour commencer le jour ». Donc, c'est une écriture, en fait, qui est très fine, qui nous emmène ici et là, qui tourne, qui revient, qui ouvre des fenêtres ou alors qui les referme. C'est vraiment une amorce qui est présente dans chaque poème. Chaque poème commence par « pas seulement ».« Pas seulement » et une écriture tout en paradoxe, comme celui contenu dans les jours et ce qu'ils ont d'affolement, de trembler et de lumière. Hélène Lanscott travaille la langue, la syntaxe, et on se laisse attraper car c'est une langue qui estrait les choses et pas seulement la macération en soi, car il faudrait encore tenter le cœur devant l'urgence de la vision, la vérité qui guette. Dans la succession des contradictions, Hélène Lanscott nous entraîne vers des associations assez inattendues. Par exemple, elle écrit « ses pensées sur les rampes d'escalier ». Donc voilà, c'est des associations d'idées en poésie assez inattendues. Et c'est une voix qui est originale et rythmée. Elle interroge sur l'écriture, le travail de la langue qui est à inventer. Je vous dis un petit extrait. Pas seulement se perdre dans le bois d'autrefois, mais se perdre sur les routes secondaires à lire branches, mortes, croisées, sur lignes vertes, en suivre les traces de jeunesse chez l'autre ride de naissance, vieille prise, vieux pli. encore traverser les couches d'épiderme, transvaser le moral d'un bac à l'autre, pépite abrupte, joie du jour, beauté très belle, moins belle. Donc voilà, une écriture très intéressante avec une langue qui s'invente. Alors le second livre, c'est un livre de Lucien Noulez qui est paru aux éditions du Péri et qui s'appelle « Les travaux de la nuit ». Alors ce que nous dit Lucien Noulez assez tôt dans les textes, c'est « Pour vivre, il faut rêver ». Donc voilà, ça annonce un peu la couleur de ce petit livre qui semble avoir été écrit sur le fil des jours. Chacun des petits textes a pour titre un verbe d'action, comme par exemple respirer, compter, lire, inviter, rouler, répondre, colorier, regarder, dormir, tricoter, rêver, enterrer, continuer, etc., etc. Et ces titres verbes donnent une dynamique à l'ensemble, le font osciller entre tendresse et tristesse. Donc beaucoup d'humour aussi. Donc, Lucien Noulez, à travers ses poèmes, offre un regard sur la vie. La mort, il offre un regard sur le monde. Il écrit par exemple « Je ne peux pas laisser la terre se sécher, les enfants se tarir et la musique aux mains des professeurs d'économie ». Alors donc, si colorier, rêver, compter pourrait rappeler l'enfance, il s'agit pourtant des écrits d'un homme dans la fleur de l'âge. Il écrit par exemple « Je n'ai plus besoin de bonheur, le bonheur a eu lieu ici et là et j'ai parfois nagé dedans ». Il y a beaucoup d'amour dans cette écriture, celui aux parents « Je porte maman dans mes bras ». Je porte aussi mon père, celui aux copains, aux oiseaux, à la terre, à la vie. Et il est dit, c'est bien la vie, c'est même quelquefois très bien quand cela sonne juste et quand c'est bien rythmé. Lire Lucien Noulez fait du bien, il ramène le lecteur à réfléchir sur le sens de notre présence sur terre. Un petit extrait, patienter. Je ne suis pas vraiment né pour vivre, mais je suis né. Les gens qui vivent d'ordinaire poussent des colères de feu. Ils ont de grands poitrails remplis d'oiseaux, mais je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour des matins sans remorque, des matins où je suis tout seul. J'observe le matin, la lente vibration du froid, je cherche à accorder mon petit monde au monde immense. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt pour des nouveaux coups de cœur. Au revoir.
c'était Mac Oldfield avec un morceau intitulé Arrival, extrait de l'album QE2. Nous arrivons au terme de cette émission. La route inconnue se referme avec Patrick Jockel, notre ami poète qui habite tout en bas de la France dans les Alpes-Maritimes et qui nous revient avec un coup de cœur qui va vous dire quelque chose puisque l'auteur du livre dont il est question travaille sur Radio Grand Ciel. Il en est le technicien et le webmaster, mais il est surtout poète. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue.
On va parler un petit peu d'une collection jeunesse qui est déjà bien implantée dans le paysage éditorial puisqu'il s'agit de la collection des poèmes pour grandir aux éditions Chêne, avec un livre de Simon Martin qui s'intitule « Qui es-tu ?». Ah, j'ai oublié, les illustrations de ce livre sont de Roche Gossen. Un long poème sur le thème de l'identité. Est-ce de l'inconscience, du courage, de la sérénité? En tout cas, c'est une lecture de l'histoire de la planète et de la vie sur Terre. Si chacun est unique, et c'est prouvé, chacun est issu d'une longue succession de vies uniques. Chacun est aussi vieux que la Terre et aussi neuf qu'une aurore. C'est sur ce terrain-là que nous entraîne Simon Martin avec un brio qui trace un beau sourire sur mon visage de lecteur. Quelques milliards d'années tiennent dans ce livre. L'histoire, mais aussi le mystère de la rencontre quand on s'ouvre à l'autre et qu'on le reçoit. Le mystère de l'altérité aussi. Sans oublier le mystère d'être soi. Tout y est. Ça se lit d'une traite et ça se relit pour en goûter la malice, la profondeur et sa légèreté. Les images s'amusent avec tout cela, donnent un supplément d'humour joyeux au thème, c'est une réussite. À donner à lire aux enfants et aux plus grands, bien sûr, hein. On est dans la collection Poèmes pour grandir, mais est-ce qu'on s'arrête un jour de grandir? C'est un livre qui intéressera tous ceux qui s'interrogent sur l'identité profonde, celle qui échappe aux papiers administratifs, aux idées reçues, aux idées toutes faites, celle qui échappe aux catégorisations, au communautarisme, etc. Un livre pour les ateliers de philosophie aussi. Alors, quelques extraits de ce livre. Bon, reprenons. Avant, tu étais ça. Quelques atomes de carbone, un peu d'hydrogène, de l'oxygène, un poil d'azote. 4,5 milliards d'années sont passées et tu es devenu ça? Comment cela est-il possible? L'autre est pour moi une énigme. À quoi pense-t-il? De quoi sont faits ses rêves? Croit-il en la vie éternelle ou en la réincarnation? A-t-il une fois dans sa vie rencontré l'amour, la vengeance ou la haine? Mais le temps de formuler ces interrogations, l'autre est déjà loin, englouti par la foule. Et il est trop tard pour songer à le rattraper. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle journée et à continuer à découvrir, à écouter, à lire les poètes. À bientôt.